paradis de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août, dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sangle lourd dans le jardin, un sourd reproche dans la brise? Ah, ne m'éveillez pas trop tôt, mais un quel instant de bel contour. Le désespoir me mobilise, le désespoir me mobilise. Il me fait un instant sembler entendre au milieu des blés confusément le bruit des armes. Ni le yé, ni le romarin n'ont gardé le parfum des larmes. J'ai perdu, je ne sais comment, le noir secret de mon tourment. À son tour, l'ombre se demande. Ouais, je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Salut les amis. c'est du Fabien, à la technique.
Bien, on ne peut pas dire que les temps soient splendides. C'est plutôt même mauvais temps sur la planète. Tant des larmes en Palestine, tant du feu et de la colère, tant de la bêtise, de l'idiotie dangereuse et prétentieuse. Quand l'homme devient un monstre et sort les armes épouvantables évidemment, qui sont sa pure création, il n'y a pas de quoi être fier d'être aussi inventif pour tuer. C'était pas suffisant en Ukraine, en Russie. Chacun veut jouer un jeu, plutôt chez les autres d'ailleurs. Pas de quoi être fier de fabriquer et de vendre des armes. Je pense à la France. Encore moins de s'en servir. Pourquoi l'homme aime-t-il tant la guerre? Je comprendrai jamais. Voler, tuer, que dis-je, massacrer, est-ce si jubilatoire que l'homme persiste et continue depuis des millénaires? Et nous, les femmes, je ne sais pas si j'allais dire bêtement, mais non, par amour, ou on continue à faire des enfants soldats et victimes de la persistante tentation guerrière. Pourtant, mes fils sont pacifistes et artistes, c'est donc possible. Je ne les ai pas endoctrinés. Ils sont comme tous les enfants, ils ont essayé d'attraper des animaux. Je me souviens d'Igor à 5 ans essayant d'attraper une poule du voisin avec son pistolet à flèche. Ça a marché, il a plongé sur le gallinacé, mais le voisin aussi. Belle engueulade de Monsieur Joseph, associée à un petit sermon. Rentre chez toi, je mangerai ma poule ce soir en pensant à toi, petit con. Voilà, j'essaye d'éloigner les horreurs qui planent sur le monde. On devrait interdire de construire des armes. La France en construit et en vend beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on est aussi bien responsable des horreurs dans le monde. Combien êtes-vous, comme moi, à refuser d'être responsable des horreurs qui nous reviennent en boomerang? Bon, allons, pour certains, la vie continue. Et je le dis dans les larmes. On continue l'émission. Moseka.
Thank you. Patti Smith avec le titre Peaceable Kingdom sur les ondes de Radio Escapade. Et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Voilà, je reviens un peu au canard qui n'est jamais décevant. Bon, quand les hommes n'ont plus de guerre sous la main, ils ont la chasse aux sorcières. Et c'est la chasse aux sorcières sans voile à Téhéran. Elles avaient pourtant expliqué qu'elles n'avaient fait que leur travail de journaliste détenu depuis septembre 22 dans la sinistre prison d'Evin à Téhéran. Elae Mohammadi, qui a 36 ans, qui est reporter pour le quotidien Amiman, plutôt, et Niloufar Hamedi, qui a 31 ans, qui est rédactrice au journal Charg, ont été condamnés respectivement à 12 et 13 ans de prison pour collaboration avec les États-Unis, complot contre la sécurité du pays et propagande contre la République islamique. Parce qu'elles ont mal porté leur voile. Quel est donc ce crime de... C'est avoir dévoilé, en plus, avoir dévoilé la vérité qui fâche sur la mort dans un commissariat de l'étudiante kurde Mahsa Amini, que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde. C'était en septembre 22. Trois jours après son arrestation par la police des mœurs islamiques pour mauvais port du voile. Elle est morte, la pauvre. La fameuse mort de trop qui a déclenché en Iran le vaste mouvement de protestation Femmes, Vie, Liberté. Elles continuent, elles résistent et elles risquent leur vie tous les jours. Ces peines de prison constituent mieux qu'un prix, un hommage rendu à ces deux journalistes de la République, des ayatollahs. Et pour boucler la boucle étranglant la liberté d'expression, l'avocat de Mahsa Amini a lui-même écopé le 17 octobre dernier d'un an de prison pour avoir parlé de l'affaire dans les médias nationaux et étrangers. Tandis qu'à Strasbourg, sa défunte cliente Mahsa Amini se voyait honorée à titre posthume du prix Sakharov, la plus haute distinction de l'Union européenne pour les droits de l'homme, qui sont aussi les droits de la femme, en passant. Voilà, le 22 octobre à Téhéran, la lycéenne de 16 ans, Armita Garavan, a été ramassée inconsciente dans une rame de métro, après s'être fait alpaguer sans voile par la même police des mœurs, et elle a été déclarée en état de mort cérébrale. Encore de la propagande contre la République islamiste, évidemment. Mais c'est terrible, l'effet de la religion sur les hommes, et les femmes surtout. Bon, et le canard a bien travaillé sur le sujet. Il dit aussi que pour les frères musulmans, l'école est presque finie. Depuis mi-septembre, Gabriel Attal, à la demande du préfet de son bureau avant la fin de l'année, le ministre de l'Éducation nationale va devoir décider si l'État continue de financer, comme c'est le cas depuis juin 2008, le lycée privé sous contrat Averroès à Lille. C'est le plus grand établissement musulman de France, il y a 800 élèves. Il s'est vu étrillé par deux rapports de la Chambre régionale des comptes. Le Bahut apparaît aussi dans une enquête judiciaire ouverte en mai dernier à Lille consacrée au centre islamiste de Villeneuve-d'Ascq. Et ces investigations ont mis au jour des financements douteux liés aux frères musulmans. Déjà, un rapport de l'Inspection générale d'éducation nationale, cité en 22 par le président de région Xavier Bertrand, avait révélé un prêt de 800 000 euros octroyé au lycée par la mosquée de Mulhouse. Une somme ensuite remboursée grâce à un don de 850 000 euros de Qatar Charity, l'un des bras financiers des frères barbus. Voyez un peu le micmac qui se passe déjà dans les écoles, ou dont on prend les écoles pour cache-misère, quoi. On planque tout ça derrière l'enseignement. Certains enseignants se trouvent eux aussi dans le collimateur des autorités. L'un d'eux, chargé des cours de foi et pratique, ah, il y a ça dans cette école, a, lors d'un prêche au centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, qualifié Israël d'État fasciste, barbare et monstrueux. Ah ben voilà. L'un de ses collègues explique sur Internet comment en finir avec la démocratie française. Ben voilà un autre sujet intéressant. Ouh ! Tout ça a été transmis à Attal en septembre. Un autre aurait affirmé qu'il se positionne contre la démocratie et pour un État islamique global. C'est intéressant de financer des gens qui racontent ces histoires-là. En 2019, la région des Hauts-de-France avait coupé le robinet des subventions au lycée. C'était 250 000 à l'époque. Le préfet de région, lui, vient de convoquer la direction de l'établissement afin de lui signifier le souhait du ministère de résilier le contrat d'association liant l'un à l'autre. Si la rupture est consommée, les profs d'Averroès ne seront plus payés par l'éducation nationale française. La décision finale revient à Gabriel Attal. Il va lui être difficile de se voiler la face. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il a décidé. Mosaïque.
On the global satellite network, REM, losing my religion.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh, now I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing.
REM, Losing My Religion sur les ondes de Radio Escapade, et vous écoutez Didi.
C'est un peu le fric qui mène le monde, hein. C'est désespérant, mais c'est bien ça. Hein. Alors, je vous livre quelques petits passages d'articles du Canard, toujours. Dans les 200 plus grandes villes de France, le montant de la taxe foncière a augmenté de presque 10% en une année. Et entre 2012 et 2023, le pourcentage avait atteint 25%, soit 4 fois l'augmentation des loyers. Ces chiffres n'ont pas pu surprendre les lecteurs du Canard qui n'ont cessé d'insister ces mois derniers sur le montant de la douloureuse qui les attendait à l'automne. À la hausse de 7% due à l'inflation, soi-disant des valeurs locatives votées par le Parlement. Et l'an prochain, le pronostic est que les valeurs locatives sur lesquelles s'appliqueront les taux votés par les collectivités locales vont subir une nouvelle majoration de plus de 4%. Et il y a peu de chances que les maires de Paris ou de Grenoble renoncent à appliquer leur nouveau taux en augmentation cette année de 52 à 25%. Donc c'est dingue. Et comprenez pourquoi ça balance avec autre chose. Eh bien, c'est qu'on a des niches fiscales en or massif des Qataris. Parce que ami d'Edouard Philippe et membre de la commission des finances, le député François Jolivet s'est trouvé un nouveau cheval de bataille. C'est de donner des avantages fiscaux à tous les financiers du Hamas. Le Qatar, c'est intéressant, hein, de savoir ça. À l'occasion de la poursuite du débat budgétaire, il souhaite déposer au nom de son groupe parlementaire une demande d'évaluation du coût des avantages dont bénéficie ce pays. La convention fiscale entre Paris et Doha date du 4 décembre 1990 sous la présidence de Mitterrand. Elle avait alors pour but d'éviter les doubles impositions. Mais, lorsque Nicolas Sarkozy, grand ami de l'émirat et supporter du PSG, propriété des Qataris, arrive au pouvoir, un avenant amendant la dite convention est signé en 2008. Et les articles 3, 8 et 17 sont alors modifiés. Ils exonèrent de fait les Qataris ou leurs sociétés domiciliées en France de toute fiscalité sur les dividendes et sur les revenus locatifs, sur les plus-values immobilières et sur la fortune. Tout ça pour les Qataris. Les Français, ils payent plein pot. Un registre, merci Sarko, hein. Un régime exceptionnel, faut-il le préciser. Signalons au passage que les membres de la famille régnante ont aussi droit à ces faveurs. Donc pas seulement, on a le sens de l'accueil ou on l'a pas. Hein. Enfin, Sarko l'a, mais c'est pas sur son fric. Hein. En juillet 2015, Valérie Rabault, alors rapporteure générale du PS, de la Commission des Finances, estimait que le manque à gagner pour l'État, consécutif à toutes ses attentions, s'élevait à plus de 200 millions d'euros par an. Eh oui, il fait des cadeaux, Sarko. Alors, quelques semaines avant son élection, le candidat Emmanuel Macron affirmait, lui, sur BFM TV, vouloir mettre fin aux accords qui favorisent en France le Qatar. C'était il y a 6 ans. Macron, depuis, a oublié la promesse de Macron avant qu'il soit président. Hein. Il n'a jamais mis fin aux accords qui favorisaient en France le Qatar. Éric Ciotti, le président des Républicains, a lui aussi été atteint d'une crise d'amnésie. Le 12 octobre dernier, au lendemain de l'attaque du Hamas, il exigeait solennellement dans une lettre ouverte au chef d'État que la France dénonce cette convention fiscale. Il y allait lui aussi de l'honneur de la France, en oubliant bien évidemment de préciser dans sa missive à qui était dû cet accord déshonorant. À ses copains, évidemment. C'est une telle salade dégueulasse de fric là au milieu que j'arrête. Merci le canard de nous le rappeler quand même. Moseka.
Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis Carrère, j'écoute Macala, oui. Je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère. Blablabla, bla bla, etc. Patati patata, je viens du Canada, hey. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je rappe en triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films d'Yves Montand. Avec mon petit accent, si charmant. Et je comprends que je manque de maîtrise. Mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple. Le mien est compliqué comme un labyrinthe. Yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert. Je préfère lire des pentes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai Céfran. François Mitterrand, je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bagalter. Je vous French kiss, éclair au chocolat. Je vous French kiss, pomme de terre, en robe de chambre, en robe de chambre, comme Robespierre. Je vous French kiss. L'hexagone, Lexa Gonzalez, Chili Gonzalez, l'hexagone.
Chili Gonzalez, French Kiss sur les ondes de Radio Escapade, et vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Dans un Politis, je crois, assez récent, je trouvais un article assez intéressant qui explique comment Israël a joué les apprentis sorciers avec le Hamas. Bon, on va tâcher de couper un peu l'article, mais quand même, c'est intéressant. Ben, quiconque a vu des images en provenance du sud d'Israël ne peut pas hésiter. Le massacre de jeunes gens dont le corps jonche le sol dans les villages situés à quelques encablures de Gaza sont des otages violentés par des terroristes qui les arrachent à leur famille. Et tout ça révulse la conscience et appelle une condamnation sans ambiguïté, en tout cas, de l'attaque menée par le Hamas. Et notre statut d'occidentaux, ennemis de la violence, soi-disant, loin de ces lieux palestiniens de souffrance, nous invite naturellement à ne pas marchander notre condamnation. Celle-ci est plus difficile assurément pour les Palestiniens eux-mêmes qui subissent l'occupation et l'oppression depuis tant d'années sans que leur sort suscite la moindre émotion dans nos capitales. On savait tout ça, on n'a rien dit depuis des années et des années. C'est pour ça qu'Israël a osé faire des horreurs et les repousser dans leur dernier retranchement. Donc il faudrait qu'on use de notre droit et puis même de notre devoir de justice. Parce qu'une fois réitérée la condamnation claire du raid lancé par le Hamas, car d'autres images nous proviennent déjà de Gaza, mais des familles entières sont décimées par les bombes israéliennes. Il y a plein d'enfants. De quels crimes peuvent-ils être capables, ces enfants, coupables, ces enfants ? Il faudrait aussi s'interroger sur ce Hamas qui est la cible, à juste titre, de toutes ces détestations. Pourquoi et comment les frères musulmans jordaniens et égyptiens en sont-ils venus à dominer le paysage politique palestinien ? Les Palestiniens, ils ont été coincés par tout le monde, par les Juifs et en même temps par les musulmans. C'est terrible. Un souvenir m'est revenu d'un reportage, c'était à Ramallah, en 89. C'était le siège de l'autorité palestinienne, mais qui était alors celui de l'administration civile israélienne des territoires. Il y avait un haut responsable israélien qui s'était vanté de favoriser la montée en puissance du Hamas, qui était alors groupusculaire, pour casser les reins de Yasser Arafat. Et voilà comment commencent les choses. C'est peu dire qu'Israël a joué les apprentis sorciers, comme le fit Bachar al-Assad en Syrie, ou en instrumentalisant les groupes djihadistes pour discréditer la révolution, comme l'a fait Poutine en Tchétchénie. Enfin, voilà, de nombreux dirigeants israéliens ont joué à ce jeu terrible pour discréditer le Fatah de Yasser Arafat au moment où celui-ci avait fait le pari de la paix. Et bien, tu parles d'une paix. Pour éradiquer le Hamas, il n'y aurait qu'une solution, c'est ouvrir une perspective de paix conduisant rapidement à un État palestinien. Mais personne ne veut laisser un bout de terrain aux Palestiniens. C'est quand même dingue. Il y a toujours eu des sabotages, des accords qui souffraient d'un péché déjà. Il y avait eu les accords d'Oslo il y a longtemps. C'était en 93, je crois. Et ces accords souffraient déjà d'un péché qui était la perspective d'État palestinien. Mais ça apparaissait pas du tout dans ces accords, ce qui était inimaginable. À quoi servent des accords si on ne s'entend pas sur quelque chose d'essentiel ? Et même la lecture planétaire dont beaucoup de médias se repaissent ne fera pas une nouvelle fois oublier la question palestinienne dans sa dimension territoriale, culturelle, puis humaine surtout. Alors l'horreur du 7 octobre nous dit qu'il n'y aura décidément pas d'extinction de ce conflit sans une solution respectueuse des droits palestiniens. Mais aujourd'hui, on se demande qui les veut. C'est terrible. Moi, je pense beaucoup à eux. C'est horrible, cette histoire. Bon, on va tâcher de parler d'autre chose, mais c'est difficile. Musica. Tired of this life, but you wanna know what it's like. Don't you wanna know? Tomorrow night, fireworks will fill the sky. Fireworks will fill the sky. Up in the air so high, over the world below, for just long enough. So high, over the world below,
Down Landes sur les ondes de Radio Escapade avec le titre Tired of This Life. Vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Bon, on va changer de genre, les amis, parce que c'est trop dur. Alors, je vais vous parler, lecture, art, tout ce qui fait du bien. Alors, il y a une femme que j'aime beaucoup, moi, c'est Virginie Despentes. Bon, je pense qu'elle est préférée des femmes aussi, plutôt que des hommes. Son dernier bouquin s'appelle « Cher connard », c'est un livre de poche, et c'est assez jubilatoire. Ça a été le phénomène de la dernière rentrée littéraire, et c'est en poche, donc c'est super. Et Virginie Despentes, elle est vraiment assez étonnante parce qu'elle est cash. Alors, c'est à la fois social, littéraire, et c'est sur les rapports hommes-femmes, comme d'habitude. Et « Cher connard » ravive le genre épistolaire. On lit les mails qu'échange Oscar, qui est un écrivain d'une quarantaine d'années, « mitouisé », dit-elle, après une accusation de harcèlement sexuel par une blogueuse influente, et Rebecca, qui est une comédienne sur le déclin depuis qu'elle a passé le cap de la cinquantaine. Vous imaginez, on est en déclin depuis la cinquantaine, il faut s'accrocher, hein. Oscar traite Rebecca de crapaud, elle réplique avec la même brutalité. Il est le connard du titre. Et passé. Pardon. Passé le temps des insultes. Alors j'ai perdu le fil de mon article. Vient celui de la crise du Covid et du confinement et les deux âmes solitaires, qui sont polytoxicomanes toutes les deux et enragées, apprennent alors à se connaître, à se confier et à se soutenir. Alors si Despentes, qui est une figure quand même punk devant l'éternel, n'a pas perdu de son vitriol, elle signe avant tout un grand roman de réconciliation. Elle est l'idole de toute une génération de féministes et elle s'interroge sur l'après. Que fait-on de son porc une fois qu'on l'a balancé, et offre une voie de sortie à une potentielle guerre des sexes. C'est assez jubilatoire. Moseka. Vive Virginie Despentes.
Something's gone, it's gone for good. But now that you've gone, I wish that you would. I've turned around and left another time, instead of leaving town with so much on your mind. All the riches of the world won't bring you back, nor yearning as deep as any sea. All the books upon this earth can't tell me where you've gone. Wherever you are, won't you save a place for me? Wherever you are, save. Sleep and dream that you found, saying don't worry love, I'll be coming home. All the riches of the world won't bring you back, nor yearning as deep as any sea. And all the books upon this earth place for me. riches of the world won't bring you back, nor yearning as deep as the sea. Though the books upon this earth can't tell me where you've gone, wherever you are, to save a place for me.
Save a place for me, c'est Pierce Faccini sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez toujours Dididi et Isabelle.
Et au cas où Pierce écoute Radio Escapade, on le salue bien. Alors, parce qu'il n'est pas loin. Hein. Je vais vous parler peinture maintenant. Et surtout Nicolas de Staël, parce que c'est vraiment un type génial. Il est très moderne en même temps, C'est superbe ce qu'il fait. C'est aussi une comète, cet homme. Il est mort à l'âge de 41 ans, ce qui est beaucoup trop tôt pour un artiste. Enfin, c'est toujours trop tôt. Et il était d'origine russe. Il a brillé pendant une quinzaine d'années, laissant derrière lui une œuvre intense. Son destin tragique et ses tableaux phares ont quelque peu fait oublier le reste de sa peinture. Et pourtant, il a inlassablement exploré pas mal de motifs, de raisons, de directions. Voilà. C'était une personnalité intransigeante, c'était un travailleur acharné. Il appartenait à aucune chapelle. De Staël n'a cessé de remettre les compteurs à zéro chaque fois qu'il lui semblait avoir atteint la fin d'une piste. Enfin, d'une piste artistique, évidemment. Donc, la rétrospective qui lui est consacrée au Musée d'art moderne de Paris, la première depuis 20 ans, rappelle de manière chronologique cette dimension expérimentale. Ah, ça donne envie d'y aller. C'est loin, mais ça donne envie d'y aller. Les toiles du début des années 40 sont abstraites, sombres, torturées, avec des compositions, avec des faisceaux enchevêtrés. Et en 46, après la mort de Jeannine Guillou, qui était la mère de son premier enfant, à la suite d'un avortement thérapeutique, ah, quelle horreur. De Staël s'installe dans un atelier rue Goguet, à Paris. C'est un atelier qui est vaste, lumineux. Le lieu l'invite à éclaircir sa palette. Donc, il change un peu ses couleurs. Les tons s'adoucissent, les aplats ressemblent à des vitraux. Et dans son laboratoire, De Staël, qualifié d'abstrait, ne tourne pas le dos à la figuration. Il affirme même que le peintre aura toujours besoin d'avoir devant les yeux, de près ou de loin, la mouvante source d'inspiration qu'est l'univers sensible. Donc il voit bien le monde, il ne voit pas que les couleurs. Mais c'est un peintre chercheur, alors il fouille les formes et les matières, il change de vocabulaire aussi pour inventer un autre langage. Et après les volumes massifs, succèdent des motifs de mosaïque plutôt. Et la condensation laisse la place à la fragmentation. On devine des villes, des bouquets de fleurs, des cieux, des pommes, mais on devine. Et pendant ce temps, De Staël chemine. Son processus créatif se déploie sur les 6 messes du musée, si vous avez la chance d'y aller. D'abord le dessin, puis des petits formats préparatoires magnifiques réalisés sur le motif. Et puis, il synthétise ensuite ses recherches sur le paysage dans de très, très grandes toiles, laissant parler une sensibilité à fleur de peau. C'est un concert, un match de foot, un temple d'Agrigente en Sicile. Toutes les sources de vibrations. Et De Staël est un récepteur à haute intensité, dit-on, enfin disent des critiques. À Antibes, en 1955, isolé dans son atelier au bord de la mer, il peint les mouettes, les poissons, les bateaux, les pots posés sur la table. La touche est légère, il utilise de la gaze. En pleine gloire, il sombre dans le désespoir. Vaincu par l'amour d'une femme. Alors il monte sur le toit de son immeuble et saute dans le vide. C'était le 16 mars 1955. La chute d'un homme engagé tout entier dans son art. Allez voir De Staël, Nicolas De Staël. si ce n'est à l'expo, dans des livres. Mosaïque.
When she says she's alone, don't believe her at all. Stay away from the room, she could dump you for fun. Now she says she's a liar. Oh, she says now you tell her all that you do, and all that you say will be sent back to you. No regrets, 'cause what she does she forgets. She says please forgive me at last, all the things I've done in the past. Now you say that's a lie. Oh, she says now you tell her all that you do, all that you say will be sent back to you.
Revolver sur les ondes de Radio Escapade avec le titre Back to You, et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Après Revolver, c'est pas mal. Faites entrer l'accusé. Je voulais vous parler de ce film génial qu'est le procès Goldman de Cédric Kahn, avec Arié Vorthalter, Arthur Harari, Jérémy Lewin, Stéphane Guérin, Nicolas Briançon et quelques autres, hein, bien sûr. Alors rarement un titre aura si bien défini un film, parce que ça va durer pendant 2 heures, je ne sais plus le temps exact, mais ça passe très vite. Et Cédric Kahn a emprunté à la captation pour retracer en 8 clos et en format carré le second procès, parce que le premier avait été cassé pour vice de procédure, je ne sais pas quoi. Donc voilà, mais enfin c'était Pierre Goldman, juif, laïque, intellectuel, militant d'extrême gauche, voyou guérillero, est condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 braquages à main armée, dont l'un a causé la mort de 2 pharmaciennes. Alors, volonté franche, pure, frontale, de ne pas quitter l'enceinte de la cour d'assises, on est là-dedans pendant 2 heures, ou 1h30, je ne sais plus le temps que ça dure, pourtant je l'ai vu. Et c'est absolument passionnant, parce que on quitte pas l'enceinte, et c'est en novembre 75, et le spectateur est dans la position de juré. Alors Cédric Kahn s'interdit toute musique, tout flashback, et ça multiplie les lignes de tension, évidemment. Donc il opte pour un montage nerveux, il aligne les témoignages, les passes d'armes entre l'avocat général et l'avocat de la défense. La salle est chauffée à blanc, c'est fracturé, il y a des soutiens, il y a des opposants. Et rarement il aura été à ce point indispensable de ne pas rater la première séquence du film pour en comprendre l'une des subtilités. Celle-ci se déroule dans le cabinet de l'avocat, Kijman, auquel l'accusé vient d'écrire pour le dessaisir de sa défense. Décision sur laquelle il reviendra d'ailleurs. La puissance du procès Goldman réside dans une double confrontation. D'une part, il y a le combat de l'accusé pour se voir laver de ses meurtres, dans un contexte où l'extrême gauche, représentée par cette figure de la gauche révolutionnaire, affronte l'extrême droite, incarnée par certains membres de la police. D'ailleurs, acquitté en 76, Goldman sera assassiné en 79 sans qu'on sache par qui. Mais les soupçons se portèrent sur l'honneur de la police, qui était une organisation mafieuse extrémiste. D'autre part, sa lutte est contre son propre bavard, quoi, parce qu'il a, il a donné des arguments à tout le monde. Interprété avec brio par Harry Worthaler, je ne sais pas comment on dit, dans le rôle complexe de Goldman, et Arthur Harari, hallucinant de justesse en Kijman, écho de notre époque, racisme, antisémitisme, police taxée de xénophobie, etc. Le procès Goldman est un film absolument brillant et politique sur le verbe, mais surtout sur la dialectique, parce que ce juif polonais émigré, comme Kijman d'ailleurs, se bat d'un côté pour souligner l'absence de preuves contre son client et de l'autre contre un Goldman qu'il considère comme un juif de salon, à la mondanité pourrie et déstabilise la défense, quitte à se desservir lui-même et à refuser d'implorer pour convaincre de son innocence. Il dit simplement « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Et il se présente en juif maudit et clame ainsi le sentiment de sa non-culpabilité, quels que soient les faits. C'est vraiment un film qui vous prend aux tripes et qui vous ne laisse pas une seconde d'inattention pendant l'heure et demie ou les deux heures du film. Je ne sais plus combien de temps ça dure, mais ça dure pas mal. C'est passionnant. J'ai rarement vu un film de procès aussi exceptionnel. Ça s'appelle « Le procès Goldman » de Cédric Kahn. Bon, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. La vie est pleine de surprises. Espérons qu'il y en ait quelques bonnes pour la semaine prochaine. Merci mille fois, Fabien, de m'accompagner. À la semaine prochaine, les amis. Même jour, même heure, même plaisir pour moi.
Adios. Adios, adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios.
Yes.
Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regret if it wasn't for my mistakes I made yesterday? Where would I be by now? That decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine.
A lot of people have been coming up to me lately talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young but yet your world seems to be very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny, because when I'm on my journey, you know, and I'm, you know, figuring things out, I do come across, surprisingly, angels to come to me and sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly their melodies, it goes something like this.
Lest the trees cease breathing, lest the bees cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. Decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine.